Alors je voudrais commencer par ce qu'il est d'usage de faire en fait à la fin d'un colloque, c'est-à-dire au nom d'Antonio et de moi-même, remercier les intervenants de leur présence. Il fallait en effet, vous le savez, plus de courage que d'habitude pour accepter de participer à ce colloque en bravant le chaos des grèves. Et en se résignant à l'éventualité de se retrouver peut-être bloqué au retour. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi, hein. Ome genoito. Jusqu'à peu, nous ne savions pas s'il allait être possible d'accueillir ce colloque au Collège de France avec le personnel nécessaire pour en assurer le bon fonctionnement, enfin, le bon fonctionnement de nos séances. Et donc, je voudrais remercier chaleureusement, évidemment, tous les orateurs qui n'ont pas eu peur d'affronter le désagrément d'une grève, d'une ampleur, nous dit-on, inhabituelle. On n'a pas l'impression, hein, lorsqu'on regarde la circulation dans la rue ou le taux de fréquentation des métros et des bus ce matin, mais enfin, c'est ce qu'on nous dit depuis un certain temps. Je voudrais aussi remercier le public qui s'est déplacé en consentant pour certains à des marches, à de longues marches, et surtout l'ensemble des personnels du Collège de France qui, par leur présence, permettent la tenue de ce colloque. J'espère, nous espérons, que nul ne le regrettera. Le sujet de notre rencontre, que je voudrais présenter rapidement en introduction, a en tout cas, je crois, l'avantage de l'originalité. Ce colloque est, je pense, le premier consacré à un problème méthodologique qui, conditionnant notre façon d'appréhender la culture des anciens et déterminant nos modes de travail et d'organisation dans le domaine de la papyrologie depuis ses origines, est un sujet qui est rarement étudié pour lui-même et à plus forte raison remis en question. Il s'agit de notre façon de classer la documentation écrite conservée par les papyrus en deux catégories qui sont vite devenues des évidences selon lesquelles s'organise notre discipline. Les sources relevant de l'écriture qu'on pourrait appeler pérenne, c'est-à-dire les livres, productions écrites, faites pour durer, pour être recopiées et se diffuser au-delà du cercle de leurs commanditaires. Ces textes sont l'objet d'études de la papyrologie littéraire et impliquent une approche qui est avant tout philologique. Et puis, évidemment, les papyrus documentaires, les sources relevant de l'écriture quotidienne, entre guillemets, que nous autres modernes avons pris l'habitude de désigner sous le terme de document, une appellation commodément englobante, mais d'un grand flou en ce qu'elle recouvre une multitude foisonnante de réalités, dans le détail de laquelle je n'ai pas le temps de rentrer. Ces sources s'inscrivent normalement, contrairement aux premières, dans l'urgence du présent. Elles sont le domaine de la papyrologie documentaire qui met en œuvre des questionnements qui sont avant tout historiques. Alors à ces deux catégories est venue s'ajouter une troisième, un bis à l'écran, les papyrus paralittéraires, ce que les anglo-saxons appellent « sub-literary papyri ». Alors « para », à côté d'eux, ou « sub », sous, le préfixe n'aide pas à en donner une définition claire. Ce sera la tâche d'Antonio Ricciardetto que de creuser, d'interroger cette notion au cours de ce colloque. Alors la première question qui se pose, qui est au centre en fait de la problématique de ce colloque, est de savoir si cette différence entre papyrus littéraire et papyrus documentaire, pour le dire autrement, entre livre et document, et je laisse pour l'instant de côté les papyrus paralittéraires ou sublittéraires, si cette différence était pertinente pour les anciens. Alors certes, du point de vue de son élaboration et de sa diffusion, les deux types de textes étaient nécessairement ressentis comme fonctionnant différemment. Les sources littéraires sont constitués de textes qui font l'objet d'une édition et d'une traduction, d'une tradition, pardon, autrement dit, de textes destinés à la publicité, faisant l'objet d'un travail éditorial et volontairement livrés aux copistes pour une diffusion large qui ne se limite pas à une seule catégorie professionnelle, et j'insiste bien sur ce point, et dont la durée peut être indéfinie, ce qui exclut par exemple, dans l'ordre de la papyrologie documentaire, une circulaire administrative, elle aussi recopiée en plusieurs exemplaires, mais diffusée auprès d'un groupe d'individus bien circonscrits professionnellement et temporellement. De ce point de vue, donc, les sources littéraires semblent s'opposer à des documents émis en un ou plusieurs exemplaires, adressés à des individus bien particuliers, mais non destinés à entrer dans le flux de la tradition en vue d'une transmission sur plusieurs générations. Mais au-delà de cette différence, qui me semble fondamentale, entre les deux conditionnés par deux ordres propres d'intentionnalité, les anciens ont-ils ressenti les deux groupes comme relevant de deux conceptions différentes de l'écrit ? C'est une question, évidemment, qu'on peut se poser. En outre, même s'ils les ressentaient comme différentes, ces catégories étaient-elles hermétiques l'une à l'autre, ou leurs différences de nature ont-elles malgré tout permis des interactions entre les deux ? Alors, le premier des réflexes à avoir, nous sommes des philologues, le premier des réflexes à avoir est de se demander si les anciens ont validé par leur vocabulaire la différence ou l'opposition entre livre et document. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie d'une investigation terminologique, que je me contenterai ici d'esquisser à partir des sources papyrologiques et littéraires d'époque proto-byzantine en guise d'introduction. Le concept de document, au sens d'ensemble de pièces relevant des affaires ou générées par l'activité d'un individu, était bien connu des anciens qui pouvaient le rendre par plusieurs mots. Alors, je vous propose un texte du VIe siècle qui nous livre peut-être les deux principaux mots. Alors, je vous donne une traduction de ce texte. Hein, je suis prêt à te rendre la dite reconnaissance de dette que t'a signée mon père quand je l'aurai cherché, identifié et retrouvé dans tous mes documents. Et si je constate qu'elle est perdue dans mes papiers, alors je déclare également qu'en aucune façon et à aucun moment, je n'aurai plus de compte à te demander. Alors, vous voyez, le mot « dikaiomata » désigne n'importe quel document attestant les droits d'un individu. Il couvre la majorité des documents qu'un particulier pouvait avoir chez lui, des prêts, des locations, des ventes, des transferts de propriété selon diverses modalités, etc., etc., sans compter d'ailleurs les reçus fiscaux. Il exclut cependant les documents non juridiques comme les lettres, ce qui pose le problème du statut des lettres, notamment privées, dans la conception de l'écrit des anciens. On notera d'ailleurs que ces lettres présentent certaines caractéristiques, j'aurai l'occasion d'y revenir, des caractéristiques notamment formelles, écriture, langue, qui les rapprochent des textes littéraires, et ce, de plus en plus fortement, durant l'Antiquité tardive. Alors, l'autre mot de notre papyrus, c'est cartaille. Carté, donc, ce terme est assez polysémique. Il désigne avant tout le papyrus, puis, par dérivation, n'importe quel texte écrit sur papyrus. Mais c'est un fait que, au moins dans la documentation de l'Antiquité tardive, il ne recouvre que les documents. Emploi d'ailleurs qui est passé en copte, où le mot cartès et surtout son diminutif cartion désigne un document de façon générique. Le pluriel cartaille, dans notre texte, désigne donc l'ensemble des documents, des papiers d'affaires d'un particulier ou d'une institution, ce qu'on appellerait aujourd'hui des archives. On apprend par exemple, par un règlement de litige du 5e siècle, que telle personne a profité de la maladie d'une autre pour lui voler tous cartas caitasque, c'est-à-dire ses archives et son mobilier. Le terme n'est pas seulement utilisé pour les documents d'un particulier, mais aussi pour ceux d'une administration, au point que l'on parle de demotioi cartae, de registre public, d'où archives publiques. Un troisième mot, à l'époque proto-byzantine, est utilisé pour désigner le document général. Il s'agit de grammateion ou grammation. Contrairement à Cartes, son emploi collectif pour désigner les archives documentaires privées ou publiques est rare dans les papyrus. On en a cependant plusieurs exemples en copte. L'homélie, par exemple, l'homélie de l'archange Gabriel, qui est attribuée à Célestin de Rome, raconte l'histoire d'un homme riche, analphabète, qui n'arrive plus à retrouver un reçu, malgré ses recherches, dans ses documents et papiers, nés grammation pour grammation, terou, men, en cartes. Le pluriel collectif se rencontre aussi dans le testament, et là il s'agit d'un document, le testament de Jacob, supérieur du monastère de Foibamont, sur la rive ouest de Thèbes, qui institue comme son héritier Victor, qui prendra possession des biens du monastère, tout ce qui s'y trouve, nous dit le testament, or ou argent, textile ou bronze, document ou livre, et on retrouve les mêmes mots, eite grammation, eite jome, jome signifie livre en copte, grotte, cavité, etc. Alors, ce passage est important car pour la première fois, on voit les documents former un groupe à côté des livres. En cas de succession, ils sont traités donc comme deux entités différentes, mais vous le voyez, aussi complémentaires. Nous n'avons pas de documents, à ma connaissance, de documents grecs de la même période qui soient aussi explicites. Dans ceci, les livres apparaissent sous le vocable de biblos ou biblion. On notera cependant que l'ambiguïté du second terme, qui, désignant primairement un rouleau de papyrus, peut aussi bien s'appliquer à un livre de littérature qu'à un document, soit émanant d'un particulier, soit issu de l'administration. Même après que le rouleau eut fait place au codex, le terme continue à s'employer pour un ouvrage littéraire, tandis qu'on le voit encore au VIe siècle désigner certains types de documents, notamment des pétitions. Il est donc intéressant de voir que le mot désignant par excellence le livre peut être aussi utilisé pour des documents. On retrouve la même ambiguïté pour le local, qui contient les biblioi. Le mot bibliothéquer, qui désigne d'abord la bibliothèque au sens moderne du terme, est très vite employé dans les papyrus pour un dépôt d'archives d'État. Ce dernier emploi alors disparaît à l'orée de la période byzantine, c'est-à-dire au début du IVe siècle, puisque ce type d'archives arrête de fonctionner. Le mot n'est par ailleurs jamais attesté dans les documents grecs pour désigner des bibliothèques de livres. Nous en avons un seul exemple, à ma connaissance, qui se trouve sur un papyrus littéraire, une petite note ajoutée au verso d'un recueil de mimes d'époque romaine. Alors, mais autrement, on ne trouve pas le terme bibliothéquer désignant une bibliothèque de livres dans les documents. Cela peut s'expliquer par l'absence de bibliothèques publiques, hormis Alexandrie, et le fait que les bibliothèques de particuliers, du fait de leur dimension exiguë et de leur organisation informelle, n'aient pas eu droit à ce type d'appellatif. Le mot réapparaît dans les documents coptes d'époque arabe, où il fait référence à la bibliothèque d'un monastère. Je vous en donne un exemple avec une donation d'enfants au monastère toujours de Foibamont. J'ai établi et je t'ai donné cette donation à toi, le supérieur du Saint-Monastère, afin que celle-ci soit déposée dans la bibliothèque de bibliothéquer du Saint-Lieu, de façon à ce que, si quelqu'un veut empêcher le jeune enfant d'être au service du monastère, eh bien, elle soit produite. On peut hésiter sur le sens à donner au mot bibliothéquer dans ce texte et dans d'autres textes de même nature que nous avons à la même époque. S'agit-il de la salle d'archives du monastère, sens qui serait dans la lignée des emplois de bibliothéquer des documents grecs d'époque romaine, ou bien s'agit-il de la bibliothèque du monastère qui servait aussi de dépôt d'archives. Personnellement, je pencherais plutôt pour la seconde solution. L'examen du vocabulaire montre en tout cas que les proto-byzantins ont bien distingué les livres des documents ceci consistant avant tout dans les pièces juridiques et administratives, mais les mots qu'ils employaient à leur sujet révèlent une ambiguïté fondamentale, traduisant une conception selon laquelle les deux, plutôt que de s'opposer, sont les deux facettes d'un même phénomène, c'est-à-dire l'écriture. Cette conclusion est-elle corroborée par les pratiques liées à la conservation de chacun des deux types d'écrits, les archives d'un côté et les bibliothèques de l'autre? Alors, nous avons vu l'ambivalence des témoignages documentaires concernant les bibliothèques des monastères. Qu'en était-il chez les particuliers? En tout cas, chez les personnes peu nombreuses qui avaient le privilège de posséder une collection de livres en même temps que des ensembles archivistiques documentaires, ensembles qui étaient rangés dans des placards muraux comme ceux qu'on a retrouvés ici à Caranis. Les quelques données que nous avons à ce sujet proviennent de sources littéraires et entérinent l'idée, d'ailleurs tout ce qu'il y a de plus attendu, que les livres et les documents se côtoyaient dans le même espace. Un des témoignages les plus clairs est celui de l'homélie de l'archange Gabriel que je citais tout à l'heure. L'homme riche dont il y est question a rangé le reçu que lui a donné le pauvre dans une capsa, c'est-à-dire donc un coffret à papyrus, dans laquelle se trouvent ses documents et ses livres. Neuk grammation men en jome. On retrouve ici donc le couple grammation et jome que nous avions rencontré dans le testament de Jacob. La promiscuité que connaissent leurs livres et documents de leur vivant, enfin du vivant de leur possesseur, se poursuit après leur mort. Ils sont éventuellement relégués ensemble dans un coffre ou dans une jarre, comme le montre le cas de la bibliothèque des archives de Dioscore d'Aphrodite, la bibliothèque et les archives de Dioscore d'Aphrodite qui ont été retrouvées dans le même conteneur. Alors, c'est peut-être du point de vue formel que les différenciations entre livres et documents, que la différenciation est peut-être la plus visible. D'un point de vue bibliologique, le livre de l'Antiquité tardive prend la forme d'un codex, abandonnant donc le rouleau, tandis que les documents s'élaborent sur des coupons de papyrus. Alors qu'à une époque plus ancienne, le rouleau pouvait servir aux deux types d'écrits, l'Antiquité tardive introduit une forte différenciation formelle. Mais, comme vous le savez, la forme du codex finit malgré tout par contaminer le domaine documentaire. Sous l'effet de la romanisation, on voit apparaître dès le début du IVe siècle, et surtout à partir du VIe siècle, les codex documentaires, soit pour les comptabilités privées, soit surtout pour les registres financiers et fiscaux qui prennent, si l'on peut dire, la suite des tax rolls. Aussi, la différenciation bibliologique entre livres et documents tend-elle à s'estomper. Par ailleurs, il n'est pas rare qu'un document puisse être réutilisé pour copier un texte de nature littéraire ou paralittéraire, ou inversement. Je voudrais vous en montrer, c'est connu, mais je voudrais montrer juste un cas un peu atypique. Le copiste d'un manuel de conjugaison verbale grec qui n'a pas reculé devant l'idée de transformer un rouleau contenant un arbitrage copte en un codex consacré aux paradigmes verbaux, aux verbes contractes, même si cela conduisait à une espèce de monstre bibliologique dans lequel chaque page du manuel faisait face à une page de document. Le document est à gauche et les conjugaisons verbales sont à droite. D'un point de vue paléographique, livres et documents se sont toujours nettement opposés par le développement d'une différenciation stylistique entre écriture de librairie et écriture documentaire. Je crois que Willy Claris reviendra plus longuement sur le sujet. L'Antiquité tardive se caractérise cependant par le brouillage de cette différenciation qui se manifeste par une influence des styles littéraires sur ceux des documents. Alors, certes, les fonctionnaires et les notaires adoptent des écritures très différentes de celles des livres, mais les particuliers ont de plus en plus tendance à littérariser, si vous me passez ce néologisme, leur écriture dans leurs lettres ou dans les souscriptions qu'ils peuvent être amenés à apposer sur des pétitions ou sur des documents juridiques. Je voudrais vous montrer un exemple bien connu des papyrologues avec cette lettre des archives de Théophane, dont l'écriture est très proche de textes littéraires que j'ai mis à droite sur l'écran, ou bien cette souscription dans une pétition du VIe siècle, hein, où vous voyez que la personne a adopté un style d'écriture qui est tout simplement celui que l'on retrouve dans ce texte d'Homère du Ve siècle. Par ailleurs, les auteurs de lettres en viennent aussi à multiplier dans leurs documents les signes diacritiques, accent, esprit, point, diastole, etc., normalement réservés à la copie des textes littéraires. Un exemple toujours avec une lettre des archives de Théophane qui est truffée de ce type de signes. Alors la compénétration entre ces deux univers écrits, le littéraire et les documentaires, se manifeste de façon extrême par des cas borderline, des cas des entre-deux, des textes disons entre-deux, dont je voudrais vous donner quelques exemples. Alors je les emprunte aux archives de Dioscore d'Aphrodite, donc 6e siècle, archives qui contiennent à la fois des documents, des textes des livres, on va dire, et des poèmes autographes, d'où le terme d'archives bibliothèques que j'ai proposé d'utiliser pour cet ensemble. On trouve dans cet ensemble une pièce bien curieuse. Il s'agit d'un rouleau contenant une série de textes, une pétition sur les deux premières colonnes et au moins deux lettres, l'une adressée à un évêque, l'autre à un notarios érudit. D'un notarios érudit à un confrère. C'est la colonne 3. Alors, quel est le statut de cette série de documents? En examinant le rouleau de plus près, je me suis rendu compte qu'il ne devait pas être considéré comme un registre de documents remplissant une fonction documentaire, mais qu'il était une anthologie servant de modèle à celui qui l'a copié et dont on peut reconnaître la main. Ce que n'avait pas fait le premier éditeur, c'est tout simplement celle de Dioscore, qui a adopté là un style d'écriture de librairie très proche de celui qu'il utilise dans ses poèmes et qui s'oppose à celui qu'il adopte pour les documents qu'il est amené à écrire. C'est donc qu'il concevait ces documents comme des textes remplissant la fonction d'un manuscrit littéraire. Pourquoi ? Tout d'abord, la pétition n'est pas écrite par n'importe qui, mais par le célèbre Aure Apollon, hein, philosophe du Ve siècle, bien connu aussi pour son paganisme militant. Par ailleurs, si l'on ne connaît pas les auteurs des deux lettres qui suivent, on est frappé par le style sophistiqué qu'elles adoptent et par la présence dans chacune d'elles de citations homériques qui en font deux modèles de style épistolaire, de ce style épistolaire à la mode à l'époque. Donc, nul doute, selon moi, que Dioscore s'est constitué là une anthologie de documents qu'il pouvait lui-même utiliser dans la rédaction de ses lettres et des nombreuses pétitions qu'il a eues à écrire. Ainsi, donc, ce recueil de documents remplissait en fait le rôle d'un livre, un livre de modèle, et témoigne de la fonction quasi-littéraire que certains documents, comme la pétition et la lettre, pouvaient avoir dans l'Antiquité tardive. Alors, inversement, on trouve parmi les pièces littéraires des archives bibliothèques de Dioscore un très curieux poème dont je vous donne juste la traduction du début et de la fin. « Reçois, ô le meilleur des hommes, une lettre de ton ami, de moi qui aime ta vue comme un assoiffé qui sortirait de terre pour contempler ta personne, qui est pour moi aimable ami, un si doux sujet d'attention, etc. etc. » Je saute le milieu, qui est d'ailleurs assez abîmé, pour vous traduire juste la fin, « Occupe-toi en personne de la réponse afin que j'aie des nouvelles de ta santé qui est ma plus chère préoccupation. » Vous voyez, en fait, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une lettre. D'une lettre, Dioscore s'est amusé à écrire une lettre en vers à un ami en difficulté. Vous noterez que l'écriture qu'il emploie n'est pas celle, la belle oncia ou la belle majuscule qu'il adopte pour la plupart de ses poèmes, ou pour la copie de l'anthologie dont je viens de vous parler, comme si le genre documentaire auquel appartient ce texte justifiait le recours à un style graphique un peu moins noble, ou en disant appartenant à une autre catégorie, celle du documentaire. Cet essai poétique, en fait, n'est qu'une conséquence extrême de la valeur littéraire dont la lettre pouvait être investie dans l'Antiquité tardive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les deux papyrus que je viens de présenter sont les deux facettes d'un même phénomène. Ils battent en brèche la vision manichéenne que l'on pourrait tenter d'avoir de la documentation papyrologique en montrant que les documents peuvent avoir un statut de texte littéraire, ce que j'ai appelé ailleurs, en jargonnant peut-être, la littérarisation du document, et que la littérature peut revêtir les atours du document et prendre le relais de la pratique documentaire, ce qu'on pourrait appeler la documentarisation de la littérature. Ces croisements participent d'une conception unitaire et globalisante de la culture écrite. Alors, vous voyez, à l'issue de cette analyse, ce qui s'impose, c'est la labilité de la frontière entre livres et documents durant l'Antiquité tardive. Je ne cherche certainement pas à dire que les deux se sont confondus dans l'esprit des anciens. Ils les ont nettement distingués, ne serait-ce que pour leurs fonctions très diverses. Mais ils ne les percevaient pas comme faisant partie de deux univers différents, en tout cas deux univers irréconciliables. Alors un tel constat, je terminerai là-dessus, un tel constat conduit à se poser une seconde question, là encore au centre de notre colloque, celle de la pertinence de nos catégorisations traditionnelles dans le travail que nous menons aujourd'hui sur les sources écrites des anciens. Or, le fait que la papyrologie se soit depuis des décennies hyper spécialisée a conduit à ériger ces catégories typologique en catégorie disciplinaire. On considère presque qu'il y a deux papyrologies irréductibles, l'une à l'autre, l'une relevant de la philologie, l'autre de l'histoire, je l'ai dit, et l'on se spécialise maintenant presque toujours dans l'une ou dans l'autre, ce qui conduit à un véritable cloisonnement des spécialités qui joue, selon moi, le rôle d'un obstacle épistémologique, entravant une appréhension plus globale de la culture écrite. Cette culture écrite gagne pourtant à être appréhendée dans une approche qui croise systématiquement les deux types de sources, permettant, un, de remettre les livres dans le contexte de leur lecteur ou possesseur, et deux, de remettre les documents dans le contexte de la formation littéraire, de la formation culturelle de leur rédacteur, et plus généralement, je dirais, dans le contexte culturel de la société de l'époque. En bref, cette approche concourt à une meilleure compréhension, une meilleure contextualisation des deux. Je voudrais vous donner très rapidement quelques exemples de cette seconde approche, qu'on pourrait appeler l'approche documentariste de la culture écrite. Eh bien, un des premiers dossiers témoignant de la fécondité de cette approche est celui des archives de Théophane, dont j'ai déjà parlé, 4e siècle, constitué d'un intéressant ensemble de lettres privées, d'une très grande qualité littéraire. En voici un exemple avec la lettre de Bessodoros à Théophane. On est frappé par le nombre de mots ou d'expressions à connotation littéraire que j'ai mis en bleu à l'écran, ou plus particulièrement des mots qui appartiennent au lexique platonicien en rouge. Or, étant donné les relations du milieu de Théophane avec le culte d'Hermès Trismégiste, ce platonisme lexical est tout à fait significatif. Il est pour l'auteur de cette lettre une manière d'affirmer les valeurs intellectuelles et aussi religieuses qu'il partage avec son correspondant. Mon second exemple est emprunté aux archives du Scholasticos ou du Scholasticus Amon et montrera l'importance de la paléographie. Les documents de la main d'Amon témoignent d'un curieux procédé pour signaler le datif des noms en A, donc de la première déclinaison. L'ajout d'une surligne sur Iota Mutum, normalement Iota qui n'est jamais écrit dans les documents de cette époque, donc une surligne pour signaler que cette Iota ne doit pas être prononcée. Eh bien, ce procédé est tout à fait inhabituel. Mais il se trouve que on le rencontre aussi dans un papyrus littéraire de la même époque, contenant des scolies à l'Odyssée. Et de ce fait, il est probable que ce papyrus soit à rattacher aux archives d'Amon. Peut-être a-t-on affaire à un texte recopié dans le cadre d'un enseignement dispensé à un proche par Amon. Amon, d'ailleurs, qui possédait, comme vous le savez peut-être, un exemplaire de l'Odyssée. Dépassant donc les individus, l'usage de ces signes diacritiques dans les documents met en lumière des milieux intellectuels, des réseaux lettrés. Puis mon troisième exemple, le dernier, je vous rassure, eh bien, nous ramènera aux archives de Dioscore et montre combien l'analyse culturelle des documents peut être riche en enseignements sur le profil de celui qui les rédige. Dans le cas de Dioscore, on est frappé par l'influence qu'Homère a exercée sur sa façon de composer des documents. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler par le passé. Un seul exemple avec cette pétition composée par Dioscore, on notera au milieu de divers homérismes la présence d'une citation de l'Iliade. Et rien n'illustre mieux, je crois, la prégnance du texte homérique dans le travail de rédaction du notaire qu'était Dioscore. Or, nous avons une partie de la bibliothèque du Dioscore qui comprenait un exemplaire de l'Iliade et un autre de Scolia l'Iliade, montrant ainsi, mais dans l'ordre, je dirais, de la papyrologie littéraire, son intérêt pour le poète. Mais les croisements vont plus loin. Nous avons vu que Dioscore s'était confectionné une anthologie de lettres dont le point commun était justement le recours à des citations homériques. Et ces citations homériques ne sont pas sans avoir exercé une influence sur les documents qu'il a été amené à rédiger, mais je n'ai pas le temps, disons, de les développer ici. Alors je m'arrête là, quoique on pourrait multiplier les exemples. Cette approche croisée n'est cependant pas toujours facile à faire, hein, je m'empresse de le dire. La plupart du temps, les textes littéraires, trouvés souvent clandestinement, sont difficilement contextualisables. Mais l'obstacle le plus grand pourrait être le blocage épistémologique dont j'ai parlé à l'instant et qui sépare toujours le monde des documents, apanage des historiens, du monde des livres, apanage des philologues ou des littéraires. Le dialogue entre les deux est encore trop rare au détriment d'une vision plus globale, plus foisonnante de la réalité. J'espère que ce colloque, et nous l'espérons tous les deux, Antonio Richard Detour et moi-même, que ce colloque, en réunissant des papyrologues et, je dirais, aussi et surtout, c'est une des originalités de ce colloque, me semble-t-il, à la lumière des interventions de spécialistes d'autres disciplines qui nous parleront de leur propre mode de fonctionnement, nous aidera à prendre de la distance par rapport à ces conceptions dans lesquelles il se pourrait que nous soyons enfermés et à promouvoir, je l'espère, une vision moins fragmentée de la culture des anciens. Voilà. Je vous remercie et on va peut-être passer tout de suite à la première communication.